Chers frères et sœurs et chers amis, ceci est l'étude numéro 7 et le titre sera « L'application du sang ». Chers amis, nous allons revoir certains passages, car le thème du sang, c'est ce qu'il y a de plus important pour la fin de la dispensation dans laquelle nous vivons actuellement. J'ai toujours été fasciné par l'histoire de Caïn et d'Abel, les deux premiers fils d'Adam et d'Ève. Il est probable qu'ils aient été des jumeaux. La Bible nous dit qu'Ève conçut une fois et mit au monde deux fois. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel ». Elle enfanta encore son frère Abel. Genèse, chapitre 4, versets 1 à 2. Peut-être se ressemblaient-ils, mais ils choisirent deux métiers différents. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Genèse chapitre 4, verset 2. Après l'expérience de leurs parents, il paraissait tout naturel que les enfants apprennent à présenter des offrandes au Seigneur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Genèse chapitre 4, versets 3 à 4. L'Écriture nous rapporte que l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Genèse chapitre 4, versets 4 et 5. Quelle différence y avait-il donc? Et pourquoi Dieu a-t-il accepté une offrande et rejeté l'autre? La réponse se trouve dans Hébreux, au chapitre 11, verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn, et c'est par elle qu'il fut déclaré juste. Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Oui, c'est par la foi qu'Abel a offert un sacrifice de sang au Seigneur. Et nous savons que la foi vient de ce qu'on entend. Romains chapitre 10, verset 17. Aussi est-il censé de prétendre que les deux fils connaissaient la puissance contenue dans le sang, car leurs parents avaient partagé avec eux leur expérience dans le jardin. Comment Abel savait-il qu'il fallait offrir un holocauste? Je pense qu'Adam et Ève avaient dit à leur fils ce que Dieu attendait d'eux. Et je pense aussi que Dieu donna la révélation de l'alliance de sang au premier homme et à la première femme au moment où il sacrifia des animaux pour expier leurs péchés et les vêtir des peaux encore humides de sang. Genèse chapitre 3, verset 21. C'était un signe de la rédemption et de la délivrance qui était à venir. Nul doute qu'Ève se soit demandé alors « Lequel de mes fils écrasera la tête du serpent ?» Genèse chapitre 3, verset 15. Les deux fils savaient très bien que Dieu voulait une alliance de sang. Et c'est la raison pour laquelle Dieu demanda à Caïn « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu ?» Certainement, si tu agis bien, ne seras-tu pas accepté ? Bien au contraire, si tu agis bien, tu seras aussi accepté. Genèse chapitre 4, versets 6 et 7 nous dit tout cela. Et Caïn savait ce qu'il fallait faire, mais il ne l'a pas fait. Oui, il décida de faire une offrande des fruits de la terre et Dieu la refusa. Par contre, Abel se montra obéissant. Par la foi, il offrit un animal en sacrifice, les premiers fruits de son troupeau. Le sang substitué fut donné par Abel d'un cœur aimant et confiant. Il désirait faire cette alliance avec le Seigneur. Caïn fit une offrande, il est vrai, mais ce n'était pas ce que Dieu aurait aimé. Il existe une grande différence entre offrir à Dieu ce qu'il demande réellement et de lui faire simplement un présent. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? La Bible dit « Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut même mieux que la graisse des béliers. » 1 Samuel, chapitre 15, verset 22. Quelle fut donc la réaction de Caïn face à la désapprobation de Dieu? Il était très irrité et son visage a été abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Mais pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu ? Certainement, si tu agis bien, tu seras accepté. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui, domine sur le péché. » Genèse chapitre 4, versets 5 à 7. Voici donc ce que Dieu disait au fils désobéissant. Le choix t'appartient. Tu peux décider de choisir entre le bien et le mal. L'Écriture est imprégnée de ce message. Nous dominons sur le péché si nous marchons dans la foi avec obéissance à Dieu. Mais Caïn ignora l'avertissement de Dieu et le pas qu'il a fait en avant le poussa à commettre un acte inconcevable. Alors Caïn, il a dit à son frère Abel, « Bon, allons ensemble dans les champs. » Et tandis qu'ils y étaient, Caïn a profité de se jeter sur son frère Abel et de le tuer. C'est selon la Genèse chapitre 4, verset 8. Donc, le premier meurtre dans la Bible a bel et bien été prémédité. Caïn a attiré son frère qui ne connaissait pas ses intentions et il l'a attiré dans les champs et lui a ôté la vie. Ce meurtre a également été la conséquence d'une désobéissance spirituelle. Il s'est rebellé contre le fait de présenter un holocauste à l'Éternel. Quel contraste saisissant! La parole nous dit que nous devrions nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi tua-t-il? On se le demande. Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celle de son frère était juste. Notez la première épître de Saint Jean, chapitre 3, versets 11 et 12. Et tout de suite après cet événement très tragique, le Seigneur posa la question suivante à Caïn. « Mais où est ton frère Abel ?» Il lui répondit « Oh, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Genèse chapitre 4, verset 9. « Si tu n'es pas le gardien de ton frère, tu es tout de même son meurtrier. » La réponse de Caïn allait bien au-delà d'un simple mensonge. C'était une déclaration empreinte d'indifférence. On peut même dire de mépris. Dieu s'adressa de nouveau à Caïn et lui dit « Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » Genèse chapitre 4, verset 10. La voix d'Abel criait pour que justice puisse se faire. Car le sang de Jésus-Christ, qui parle bien mieux, crie que justice a été faite et que nos péchés ont été pardonnés. Donc le sang d'Abel crie vengeance, mais le sang de Jésus-Christ implore le pardon et la restauration. En tant que chrétiens, nous sommes venus à Jésus-Christ, le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Hébreux chapitre 12, verset 24. À cause du péché, Caïn ne connaîtra jamais la bénédiction de Dieu. Le Seigneur a rendu son jugement. Maintenant, tu seras maudit, lui est-il dit. Maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Et quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et tu seras vagabond sur toute la terre. Genèse chapitre 4, versets 11 et 12. Mon cher ami, ne rejette jamais le message du sang. Ne prends surtout pas ce risque. Caïn ne fut pas seulement puni pour le meurtre de son frère. il fut châtié parce qu'il avait aussi désobéi à la révélation de l'alliance de sang de Dieu. Ceux qui refusent l'alliance divine sont en voie de devenir de pauvres, on peut dire des sans-espoir, et perdus pour l'éternité. Car la Bible est claire là-dessus, lorsqu'elle dit que si nous rejetons le sang de Christ, nous offensons le Saint-Esprit du Seigneur. Et la Bible dit dans Hébreux chapitre 10, « Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de deux ou trois témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce. Hébreux chapitre 10, versets 28 et 29. On ne doit pas éviter ou ignorer ou rejeter l'alliance de sang. Elle est le lien vital qui nous relie à Dieu. L'alliance d'Abraham est l'une des grandes alliances de sang qui a été établie dans l'Ancien Testament. L'Éternel apparut à Abraham et lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. » Et j'établirai mon alliance envers moi et envers toi, et je te multiplierai à l'infini. » Genèse chapitre 17, versets 1 et 2. Abraham, c'est plutôt Abram en ce temps-là. Abram tomba donc sur sa face, et Dieu lui parla en disant « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. » Genèse chapitre 7, versets 3 et 4. Dieu savait que son serviteur allait devenir un homme nouveau, et il alla jusqu'à changer son nom. Il est dit dans la Genèse chapitre 17, verset 5, « Alors, on ne va plus t'appeler du nom d'Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une foule de nations. » Genèse chapitre 17, verset 5. Donc, Dieu donna un nom nouveau à Abraham, et il devint un autre homme. La relation qu'Abraham avait avec Dieu changea tellement que le Seigneur voulut alors s'appeler le Dieu d'Abraham. Ça, c'est merveilleux. Une alliance de sang avec Dieu transforme les vies. Gloire à Dieu. Ensuite, Dieu dit à Abraham, selon la Genèse, au chapitre 17, versets 6 et 7, « Je te rendrai fécond à l'infini, et je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. » Genèse chapitre 17, versets 6 et 7. Le Seigneur promit aussi à Abraham et à sa postérité la terre de Canaan et ceci en possession perpétuelle. Genèse chapitre 17, versets 8 et 9. À condition, bien entendu, qu'il respecte l'alliance qui avait été faite. En fait, encore plus important, cette alliance serait marquée par le sang répandu. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi, tout mâle parmi vous devra être circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi l'Éternel et vous. Genèse chapitre 17, versets 10 et 11. Quel était donc le signe de l'alliance d'Abraham ? La circoncision, tout simplement. Chaque enfant mâle devait se faire circoncire à l'âge de 8 jours, donc au 8e jour. En observant ce rite, l'enfant non seulement entrait dans l'alliance, mais avait part aux promesses de Dieu faites à Abraham. Dieu honora son alliance si bien que même à un âge particulièrement avancé, Abraham put devenir le père d'un enfant. Sa femme Sarah, qui avait 90 ans, conçut un fils qu'elle mit au monde, et ils l'appelèrent Isaac. Après la naissance d'Isaac, Dieu décida d'éprouver la foi d'Abraham sur la promesse de l'alliance qui consistait à faire de lui le père d'une grande nation. Il est dit dans la Genèse chapitre 22, « Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham ?» Et il répondit, « Me voici !» Dieu lui dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Genèse chapitre 22, versets 1 et 2. Telle était donc l'ultime épreuve que Dieu faisait passer à Abraham. Lorsque Satan nous tente, il veut nous pousser à faire le mal. Mais lorsque c'est Dieu qui nous éprouve, il cherche à renouveler nos forces, nous raffermir, nous fortifier dans notre engagement. Souvenez-vous de ce contraste. Dieu nous éprouve, mais Satan nous tente. Donc l'amour d'Abraham pour Dieu et pour son fils faisait naître en lui bien des questions. Qui aimait-il le plus, Isaac ou est-ce Dieu? Après tout, l'enfant était le fruit d'un miracle. C'était un don de Dieu. Devait-il aimer le don davantage que le donateur? La Bible nous dit, Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham leva les yeux et il vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, et moi et le jeune homme, nous irons jusque là-bas pour adorer, et nous reviendrons après auprès de vous. » Genèse chapitre 22, versets 3 et 5. Mais comment Abraham a-t-il pu déclarer « Nous reviendrons ». Ça peut paraître bizarre. C'est qu'il avait une foi totale, absolue en Dieu, car il lui avait fait une promesse, car c'est d'Isaac qui sortira une postérité. Il s'est souvenu de cela. Il avait une confiance à tout casser. Il croyait que Dieu était puissant même pour le ressusciter des morts. Hébreux chapitre 11, verset 19. La foi de cet homme en Dieu était colossale, lui qui ne savait pas ce qui allait se passer sur cette montagne. Donc, nous dit la Genèse, le chapitre 22. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous les deux ensemble. Alors Isaac, parlant à son père, lui dit « Mon père ». Et il répondit « Me voici mon fils ». Isaac reprit « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit « Mon fils ». Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous les deux ensemble. Genèse chapitre 22, versets 6 à 8. Lorsque ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham éleva un autel et rangea le bois. Isaac a dû lui aussi être plein de foi, car les Écritures ne mentionnent aucune résistance de la part d'Isaac lorsque Abraham lia son fils et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Genèse chapitre 22, verset 9. Je ne peux qu'imaginer les émotions que tous les deux ressentirent au moment où Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Notez la Genèse, chapitre 22, verset 10. Alors, dans les versets 11 et 12 de la Genèse, chapitre 22, nous voyons que l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit « Abraham, Abraham !» Et il répondit « Me voici !» L'ange lui dit « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Genèse 22, versets 11 et 12. Abraham venait de réussir l'épreuve imposée par Dieu. Il avait choisi le donateur et non le don. Mais l'Holocauste devait tout de même avoir lieu. Et nous voyons dans le verset 13, toujours de la Genèse chapitre 22, que Abraham leva les yeux et qu'est-ce qu'il a vu derrière lui ? Un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Lorsque nous témoignons de notre foi à Dieu par notre obéissance, il ne nous promet pas simplement de pourvoir à nos besoins, il y pourvoit totalement. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux, depuis le ciel, et il lui dit, « Parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai toute ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. » Genèse 22, versets 16 et 17. Donc, grâce à la foi, on peut dire une foi totale, inébranlable, et de l'obéissance formidable d'Abraham, Dieu a accompli sa promesse de faire de lui le père d'une très grande nation. Alors que je travaillais sur le sujet de l'alliance de sang, il y a de cela bien des années, le Seigneur me montra quelque chose de fort intéressant. Le fait qu'il a fait ressortir Israël du pays d'Égypte à cause de l'alliance d'Abraham, car la Bible dit dans Exode chapitre 2, longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris, ces cris que leur arrachait la servitude, montèrent jusqu'à Dieu. Et Dieu étendit sa main. Il a entendu leur gémissement et il s'est souvenu de son alliance avec Abraham, avec Isaac et Jacob. Exode 2, verset 23-24. Donc, avant de conduire le grand Exode, Moïse avait appris que Dieu punirait ceux qui ne garderaient pas l'alliance. Il semblerait que Moïse ait négligé de faire circoncire l'un de ses deux fils. Alors qu'il retournait en Égypte après être allé voir son beau-père, et ceci dans un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut même le faire mourir. Exode chapitre 4, verset 24. Le texte ne dit pas très clairement si c'était Moïse ou son fils que Dieu voulait tuer, mais il est par contre bien clair dans les Saintes Écritures que la femme de Moïse, Séphora, savait ce qui avait provoqué la colère de l'Éternel. Aussi, elle a pris une pierre aiguë qui coupa comme un rasoir, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse. Et l'Éternel le laissa en vie. Exode chapitre 4, versets 25 et 26. Cette leçon, le grand chef n'était pas prêt de l'oublier. Dieu n'aurait pas honoré un homme qui avait brisé son alliance. Alors que Moïse conduisait les enfants d'Israël dans le désert, l'alliance était la force qui unissait la multitude du peuple. Les 10 commandements n'étaient pas que de simples règles de vie à respecter. Elles furent ensuite connues sous le nom de « loi de l'Alliance ». La loi de l'Alliance. Essayez de vous imaginer la scène lorsque Moïse descendit du mont Sinaï pour se retrouver face à une multitude de près de 2 millions d'Israélites qui l'attendaient. Il leur rapporta ce que Dieu avait déclaré. Et le peuple entier répondit d'une même voix, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Exode chapitre 24, verset 3. Si on peut dire, ce fut donc un pas très important vers la nouvelle alliance de sang entre Dieu et son peuple. De bonne heure le lendemain matin, Moïse leva un autel au pied de la montagne. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux et faire des sacrifices d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Et ils dirent, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit, et nous obéirons. C'est ce que a dit tout le peuple. » Exode 24, versets 5 à 7. Ensuite, debout devant toute cette multitude, Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple en disant, « Voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a fait avec vous selon toutes ses paroles. » Exode chapitre 24, verset 8. Même l'alliance écrite fut consacrée, car l'auteur des Hébreux nous dit qu'il prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple. Hébreux chapitre 9, verset 19. Donc, si nous honorons notre alliance avec Dieu, il nous honorera également. Le récit extraordinaire d'Israël errant dans le désert en est le témoignage. Notez Deutéronome chapitre 8, versets 3 et 4, car il a nourri de la manne, ton vêtement ne s'est jamais usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé. et ceci pendant ces 40 années. C'est quand même extraordinaire. Pourquoi Dieu a-t-il protégé et a-t-il pourvu aux besoins des enfants d'Israël? Eh bien, parce que ils étaient le peuple de l'Alliance, tout simplement. La promesse de protection, tout d'abord, le témoignage que nous allons voir concernant cette promesse de protection. Et croyez-moi, ce témoignage du pasteur de Toronto va vraiment nous intéresser beaucoup. Car à la fin de la réunion, il a invité tous ceux qui avaient besoin de prière et de s'avancer. Et là, il y avait une dame qui se présenta avec sa fille. Et donc, c'est lui qui raconte. Et elle me demanda de prier pour elle. Et je venais tout juste de commencer à intercéder pour cette jeune fille. Lorsque j'entendis clairement la voix du Seigneur qui me donna un ordre que je ne compris pas sur le moment même, car il me dit « Retire-lui la bague du doigt ». Perplexe, je pensais alors « Mais que vient faire cette histoire de bague dans ma prière ?» Le Seigneur me parla de nouveau et me dit, en se faisant plus convaincant, « Retire-lui sa bague. » J'ai eu un doute au sujet de cette voix et je me demandais si elle venait bien de Dieu. En regardant la jeune fille, je vis une âme prisonnière. Et lorsque Dieu me répéta mot pour mot ces paroles, je m'approchai, la pris par la main et lui demandai « D'où vient cette bague que tu portes ?» Je regardai alors la bague de plus près et je vis un petit serpent gravé dont le corps s'enroulait autour de l'anneau de la tête qui se dressait par-dessus. Je jetai un coup d'œil à la jeune fille et perçus une expression de surprise sur son visage. Elle semblait dire « Mais je ne vois pas du tout ce que ma bague a à voir là-dedans. Vous feriez mieux de prier pour moi. » J'étais encore plus perplexe qu'elle. Tout ce que je savais, c'est que le Seigneur m'avait demandé de retirer cette bague. Je me souviens encore parfaitement de cette rencontre inhabituelle. À l'aide de mon pouce et de deux autres doigts, j'essayais de faire glisser la bague de son doigt. Elle lui était pourtant plutôt grande. Mais pourtant, voyez-vous, je ne pouvais l'enlever. Impossible. Je continuais de tirer et la jeune fille se mit à crier. Le cri qu'elle poussa était terrifiant. Tous les muscles de son corps se contractèrent. Et c'est alors qu'une horrible voix guttural parla au travers d'elle, me glaçant jusqu'à la moelle. « Laisse-la !» cria cette voix, « car elle m'appartient. » Dès que j'entendis ces paroles, je sus à l'instant que les instructions que m'avait données le Seigneur étaient les bonnes. Une sainte colère m'envahit parce que je savais que je combattais contre les forces de Satan. je continuai à tirer sur la bague. Deux des hommes qui étaient parmi nous, réalisant ce qui se passait, posèrent leurs mains sur mes épaules, tandis que j'évaluais à un bon quart d'heure ce terrible mais indispensable combat. Couvrant les cris de la jeune fille, je m'écriai enfin « J'invoque maintenant le sang de Jésus-Christ. » Et au moment précis où je prononçai ces mots, la bague se retira de son doigt. Son corps raidi se détendit et ses cris se transformèrent en un soupir de soulagement. Elle fut dès cet instant complètement délivrée et demanda à Jésus-Christ d'entrer dans son cœur. J'ai la conviction que la puissance du sang de Jésus-Christ a donc rompu toute alliance faite avec les forces du mal. Vous me poserez peut-être la question suivante. Pensez-vous que la bague était véritablement responsable de tous ces problèmes? Je vous répondrai oui, car cette bague symbolise la rébellion de la jeune fille envers Dieu. Et je crois que la bague était le symbole d'un engagement avec les puissances sataniques. Le récit de l'une des pires défaites d'Israël m'aida à comprendre le danger devant lequel nous nous trouvons lorsque nous conservons certains objets par désobéissance au commandement de Dieu. Voyez-vous, lors de la fameuse victoire des Israélites à Jéricho, Dieu avait donné des instructions à Josué pour qu'il informe son armée de ne pas piller la ville. Il leur dit de ne pas s'emparer de leurs richesses. Car si vous preniez de ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit et vous y jetteriez le trouble. Lisez Josué chapitre 6, verset 18. Je répète, car si vous prenez de ce que vous aurez dévoué par interdit, vous allez mettre le camp d'Israël en interdit et vous allez y jeter le trouble. Au cours de la bataille suivante dans la ville d'Aï, les soldats de Josué faillirent carrément être mis en déroute. Josué déchira ses vêtements et demanda au Seigneur la raison de sa colère. Et voici ce que l'Éternel lui répondit. Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit et ils les ont dérobées et ils ont dissimulé et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Josué chapitre 7 verset 11. Le soldat coupable était Acan. Il était de la tribu de Juda. Acan répondit à Josué et lui dit « Il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de Shimnéar, 200 sicles d'argent, et un lingot d'or du poids de 50 sicles. Je les ai convoités et je les ai pris. je les ai mis dans la terre au milieu de ma tente, et l'argent est dessous. » Josué chapitre 7, verset 20. Et ce fut seulement quand Achan, sa famille et les objets volés ont été totalement détruits, que la malédiction sur Israël fut levée et l'alliance rétablie totalement. Et Josué et ses hommes purent alors capturer la ville d'Aï. C'est écrit dans Josué au chapitre 7, verset 25, ainsi au chapitre 8, lisez du premier verset jusqu'au verset 28 du chapitre 8 de Josué. Le message de Dieu est donc clair. Soyez prudents quant aux objets qui entrent dans votre maison, car il en est qui sont porteurs de malédiction. Pour Achan, il s'agissait d'un vêtement babylonien, d'or, d'argent. Et pour cette jeune fille de Floride, c'était une bague satanique. Je crois que la protection de Dieu se retire lorsque vous possédez des objets contraires à ses commandements. Le passage de Josué 7, versets 10 à 12, est très clair quant au fait que vous ne deviez pas posséder de choses maudites dans votre maison. Dieu dit des enfants d'Israël, « Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. » Josué 7, verset 12. Si jamais vous allez dans les Philippines ou en Afrique, vous remarquerez d'abord la puissance que les objets sataniques peuvent avoir. Bien sûr, en Amérique et en Europe, je pense que les gens sont également ouverts à toutes ces puissances démoniaques. Toutes les fois, par exemple, quand ils consultent leur horoscope, qu'ils se font lire les lignes de la main, qu'ils regardent des programmes de télévision et des films démoniaques ou qu'ils s'adonnent à certains jeux de société. Toutes ces choses permettent à Satan d'œuvrer. Le meilleur conseil que je puisse vous donner est de lire votre Bible et d'écouter la voix du Saint-Esprit. Ceci pour éviter de vous livrer à des activités pas très, je voudrais dire, catholiques. Et si vous avez en votre possession chez vous des choses que Dieu n'approuve pas du tout, débarrassez-vous de tout cela et le plus vite possible. Les plaies d'Égypte nous montrent comment Dieu protège ceux qui ont fait une alliance de sang avec lui. Quand les enfants d'Israël étaient encore esclaves, et ceci en Égypte, souvenez-vous, ils criaient au Seigneur pour qu'il les délivre. L'Éternel fit lever Moïse, qui alla devant Pharaon, et lui dit, « L'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire, « Laisse aller mon peuple. » Exode 7, verset 16. Mais voyez-vous, Pharaon a refusé. Et ce même jour, Dieu transforma le Nil en un fleuve de sang. Mais Pharaon n'écouta pas. Exode verset 20 du chapitre 7. Le Seigneur envoya alors des grenouilles, des poux, des mouches, frappa les troupeaux de maladies, fit tomber de la grêle, envoya des sauterelles, puis les ténèbres sur tout le pays. Enfin, après tout cela, oui, on peut dire enfin, l'Éternel demanda à Moïse d'avertir Pharaon d'une autre terrible plaie. Vers le milieu de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte, et tous les premiers-nés vont mourir dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la meule. Exode chapitre 11, versets 4 et 5. Mais Pharaon refusa une fois de plus de laisser le peuple partir. Son cœur était endurci par Satan. Aussi Dieu dit à Moïse que le moment était venu pour les enfants d'Israël d'être enfin délivrés. Cet événement était si mémorable que même leur calendrier a dû être changé. Le Seigneur leur dit « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. » Exode chapitre 12, et notez le verset 2. Dieu dit encore « Ce sera pour vous le premier des mois, bien qu'il quittait un pays qui venait d'être en partie détruit. » Le Seigneur parla à Moïse et lui dit de quelle manière les enfants d'Israël seraient épargnés de la mort de leur premier-né. Chacune des familles devait suivre ces 7 instructions que je vous prie de bien écouter. Vous réécouterez 2-3 fois ce CD, car c'est important. Premièrement, on prendra un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Exode chapitre 12, versets 3 à 5. Deuxièmement, si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Exode chapitre 12, verset 4. Troisièmement, vous le garderez 4 jours avant de l'immoler. Exode 4, verset 6. Quatrièmement, vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Exode chapitre 12, verset 6. Cinquièmement, on prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Exode chapitre 12, verset 7. Sixièmement, cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Exode chapitre 12, verset 8. Et septièmement, quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous mangerez à la hâte. Exode chapitre 12, verset 11. Il fallait donc après cela se dépêcher. et Dieu leur demandait de se préparer car il allait passer dans le pays. Et notez Exode 12, verset 12, 2 × 12, hein. Exode chapitre 12, verset 12. Car cette nuit-là, voyez-vous, il est dit que l'Éternel passera dans le pays d'Égypte, l'ange de l'Éternel, évidemment, et il est dit, je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte, car je suis l'Éternel. Et puis le Seigneur leur fit la promesse suivante. Elle est au verset 13 d'Exode chapitre 12. Il leur dit, « Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez, et je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai tout le pays d'Égypte. » Au milieu de la nuit de Pâques, le premier-né de chacune des familles égyptiennes mourut. Et on entendit les cris à travers tout le pays, et ceci jusqu'au lever du soleil. Est-il dit dans Exode chapitre 2, versets 29 à 30. Mais par contre, dans les maisons des Israélites, aucun enfant ne mourut. Cette première Pâque était l'ombre de ce qui allait se passer un jour sur un mont qui était appelé le Calvaire. Car en cet endroit, Christ, notre Pâque à nous, a été immolé pour nous tous. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. C'est là que nous avons été rachetés par ce précieux sang de Jésus-Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Première épître de Pierre, chapitre 1, verset 19. Donc, chers amis, notez une chose très importante. Dieu dit, vous et votre famille, ça veut dire toi et ta famille. Pour quelle raison le Seigneur demanda-t-il aux Israélites de trouver un agneau pour chacune des familles? Je pense que c'est parce que les bénédictions de l'Alliance de Dieu peuvent conduire toute une famille au salut. Vous souvenez-vous ce que Dieu dit à Noé? Il lui dit, « Entre dans l'arche, toi et ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. » Genèse chapitre 7, verset 1. Noé fut le seul homme qui était pur et vertueux que le Seigneur a pu trouver. Cependant, Dieu lui dit que toute sa famille serait protégée grâce à ses actes. Dans la Genèse au chapitre 19, verset 29, nous voyons également que Dieu a fait sortir Lot de Sodome parce qu'il s'est rappelé son alliance avec Abraham. Et le passage nous dit, Dieu se souvint d'Abraham et il fit échapper Lot du milieu du désastre. Genèse chapitre 19, verset 29. Et des siècles plus tard, le geôlier philippien questionna l'apôtre Paul et Silas et leur dit « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Acte 16, verset 30. Ils lui répondirent « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Acte 16, verset 31. Je crois que le Seigneur dépose une grâce et une protection toute spéciale sur une entière maisonnée grâce à un seul de ses membres qui entre dans son royaume. Notez 1 Corinthiens chapitre 7, verset 14. Je vais à présent vous faire partager ma propre expérience. Chers amis, l'application du sang est très importante. Les Écritures ont beaucoup de choses à dire sur la manière dont les démons œuvrent. Notez Saint Matthieu chapitre 12, versets 43 à 45. Là, on voit que les démons se souviennent. Ils sont intelligents et travaillent ensemble. Bien d'autres récits dans les évangiles et les actes nous montrent qu'il existe bel et bien tout ce monde terrible et méchant. Mais rappelez-vous qu'à travers le sang du Seigneur Jésus-Christ, et par son nom tout-puissant, nous avons autorité sur eux. Notez Luc chapitre 10, verset 19, qui déclare ceci. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Et l'apôtre Jean écrit « Celui qui est en vous est bien plus grand que celui qui est dans le monde. » Premier épître de Saint Jean, chapitre 4, verset 4. Donc, voyez-vous, tout cela est important à se souvenir. Et voici le témoignage d'un pasteur dont la famille ne voulait absolument rien savoir de Dieu. Un jour, le Seigneur me dit « Use de ton autorité en tant que croyant. » Ce qu'il voulait, c'était me faire comprendre que j'avais de l'autorité sur la personne de Satan. Comme il est écrit dans l'Apocalypse, au chapitre 12, verset 10, « Il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. J'ordonnai alors à Satan de retirer ses mains de ma famille. Et plus tard, j'appris que cette même nuit, le Seigneur apparut à ma mère dans un rêve si puissant qu'elle ne fit plus venir de diseuses de Bonaventure et tout ce monde occulte. Et peu de temps après, mes parents se rendirent tous les deux dans une petite église pour m'écouter prêcher l'Évangile. À mon retour, après le culte, mon père me dit « Que devons-nous faire pour rencontrer ce même Jésus-Christ que tu connais. » Mes parents se convertirent par mon intermédiaire, et l'un après l'autre, tous mes frères et sœurs naquirent, donc ont été nés de nouveau dans la famille de Dieu. En tant que chrétien, il est donc nécessaire que nous ordonnions à Satan de retirer ses mains de nos familles et de tous ceux que nous aimons. de tout notre cœur. C'est important, cela. Ne l'oubliez jamais. Voyez-vous. Donc, chers amis, avant de terminer, je vous demande de ceci. Désirez-vous avoir une vie de victoire et être libéré de vos liens? Car la clé se trouve simplement dans l'obéissance à la parole de Dieu. Avant la première Pâque, le Seigneur a déclaré « Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. » Exode 12, verset 13. Le mot « signe » signifie la preuve en hébreu. C'est une preuve formelle. Dieu protégera les maisons qui portent le signe. Et lorsque vous verrez le signe, il vous protégera. Des gens se sont inquiétés de savoir pourquoi nous devrions demander à Dieu de nous couvrir de son sang tous les jours de notre vie. N'est-ce pas là une vaine répétition? Ne sommes-nous pas superstitieux? N'agissons-nous pas hors des liens? Mais, chers amis, je ne prie pas quotidiennement simplement parce que je dois prier. Je communique avec le Seigneur parce que je l'aime et que je veux parler avec lui tous les jours, comme je parlerai à ma bien-aimée épouse tous les jours. Le fait de demander au Seigneur de me couvrir de son sang précieux de façon continue n'est pas à cause des liens, mais à cause de la communion. La fameuse et très réputée Catherine Kuhlmann a dit un jour « Nous ne vivons pas des gloires d'hier, ni des espérances de demain, mais des expériences d'aujourd'hui. » Oui, mais me direz-vous, que voulez-vous dire par être couvert du sang de Jésus-Christ? Eh bien, cela signifie tout simplement que nous nous approprions tous les avantages que nous donne la croix de Christ, la protection, l'accès, le pardon, la sécurité dans la grâce de Dieu et la rédemption, la réconciliation, la purification, la sanctification et la présence de Dieu dans notre vie et finalement la victoire. Je ne suis pas né de nouveau tous les jours, mais tous les matins, je lui remets mon corps et mon esprit, et je lui demande de me couvrir de son sang précieux. Ce n'est pas du tout un rite, mais le résultat de la relation qu'il partage avec moi par l'alliance du sang. Le sang ne vous couvre pas de façon systématique. Dieu ne descend pas du ciel pour marquer le signe sur votre lieu d'habitation. Vous devez lui demander vous-même sa protection. N'oubliez pas que Dieu pourvoit, mais que c'est nous qui l'invoquons à travers nos prières par la foi. Les enfants d'Israël prirent de son sang et ils en mirent sur les deux poteaux et le linteau de la porte des maisons. Vous pouvez relire cela dans Exode, chapitre 12, verset 7. Chers amis, nous allons terminer ici par la prière. Je voudrais, on n'a peut-être pas le temps, de vous dire quelques mots d'un cantique très ancien. Tu sais que je suis à toi, Sauveur fidèle. Tu m'as aimé jusqu'à la croix. Tu me connais. Ta voix m'appelle. Oh, je voudrais, rempli de zèle, suivre toujours tes saintes lois. Prions ensemble. Ô notre Père, serions-nous moins pressés de te témoigner notre reconnaissance que ceux de tes serviteurs qui ne possédaient encore que la figure des biens que tu nous as accordés en Jésus-Christ? Et ne te dirons-nous pas avec David, « Je n'offrirai point à l'Éternel des sacrifices qui ne me coûtent rien. Tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons est à toi, ô notre Dieu. Nous n'avons rien que nous n'ayons reçu de toi et nous voulons tout rapporter à toi. » Consacre-nous entièrement à ton service, afin que nous nous donnions à toi, comme étant devenus vivants de mort que nous étions. Mets en nous, Seigneur, un véritable esprit de sacrifice, que nous sachions renoncer non seulement à nos biens, mais aussi à nos convenance, à nos goûts, à notre bien-être, à tout ce que tu peux demander de nous, que rien ne nous paraisse trop peu de choses pour t'être offert dans cet esprit-là. Fais-nous comprendre aussi que les compensations que nous trouverons en toi dépassent infiniment tout ce que nous pouvons même concevoir. Sanctifie ainsi, par l'Esprit Saint de renoncement dans lequel nous les accepterons, tous les dons que tu veux nous faire. Sauveur adorable, oui, roi des rois, qui t'es abaissé toi-même, en te rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Sois donc notre modèle pour le reste de notre vie et remplis-nous de ta charité pour l'amour de ton saint nom. Amen. Et chers amis, n'oubliez jamais que Dieu vous aime. Et nous vous aimons également de tout notre cœur. À bientôt, à nouveau. Au revoir, mes chers amis.